Le sujet, ce n'est pas l'objet, c'est l'homme.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre énervé de la soirée, toujours en deux temps et à deux vitesses. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Et l'actu ce soir a un nom, Charlotte Perriand, une exposition à la Fondation Louis Vuitton, un roman graphique, un journal imaginaire, une biographie, un documentaire et même une web-série sur Arte. Tout est mis en œuvre pour fêter le parcours et la figure de cette femme libre, engagée, designeuse, architecte, inventeuse, qui aura participé à la création d'un monde nouveau et à la libération des corps, notamment dans l'espace dit domestique. À l'occasion des 20 ans de sa mort ce soir, c'est Charlotte Forever avec nos invités, Benoît Lagan.
Oui, Jacques Barsac, documentariste, co-commissaire de l'exposition Le Monde Nouveau de Charlotte Perriand qui va s'ouvrir à la Fondation Louis Vuitton. Virginie Mouza, journaliste, auteur de Et devant moi la liberté, donc ce journal imaginaire de Charlotte Perriand paru chez Flammarion. Charles Berberian, auteur du roman graphique Charlotte Perriand, une architecte française au Japon, coédité par Chaîne et Arte Éditions, et Marion Vignal, journaliste et curatrice d'art.
Parfait. Et sur le plan musical ce soir, Marion Guilbeault.
Bon, ils étaient avec nous hier soir, les Anglais de Temples. Eh ben, bien sûr, on les a gardés, c'était tellement bien. En plus, ils vont jouer un titre en avant-première, rien que pour nous.
Une exclusivité.
Temples, en live dans quelques minutes.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le énervé de la suite. Après la chaise longue signée Charlotte Perriand, on ira rejoindre le divan de Sigmund Freud. Troisième épisode de France Inter, plus de Sigmund Freud ce soir, au programme Les Femmes. Il leur doit beaucoup et pourtant le féminin sera resté pour lui un continent noir, une énigme sans sexe. Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Donc on l'a dit, hein, beaucoup de choses autour de Charlotte Perriand à l'occasion des 20 ans de sa disparition. C'était le 27 octobre 1999. Vous êtes tous ici liés à cette actualité. On va d'abord faire le point sur la façon dont vous avez connu, vous êtes rentré dans cette œuvre-là. Virginie Mouza, vous êtes journaliste, identifiée au monde de la mode. Comment vous avez découvert le travail de Charlotte Perriand? Par quel biais, par quelle entrée, par quel meuble ou quelle architecture?
Par la mode, bizarrement. Il y a quelques années, à peu près 7 ans, la marque Louis Vuitton a fait une petite collaboration avec Charlotte Perriand sur son vestiaire, principalement. C'est comme ça que je l'ai découverte, en réalisant un sujet là-dessus dans le magazine pour lequel j'écrivais à l'époque. J'ai ensuite découvert son œuvre, son appartement à Paris, son monde, son esprit et bien au-delà. Et voilà la source.
Son appartement à Paris, vous le connaissez, j'imagine, Jacques Barsac?
Je le connais, évidemment, et j'ai même un peu vécu, puisque j'ai rencontré Charlotte Perriand en 1981, autant dire qu'il y a pas mal d'années, et j'ai vécu à ses côtés pendant 15 ans.
Puisque vous êtes son gendre.
Voilà, en tout cas, Charlotte Perriand est la grand-mère de ma fille.
Pour ne pas dire que vous êtes son gendre. En tout cas, c'est la grand-mère de votre fille. Qu'est-ce qu'il avait?
Charlotte Perriand ne m'a jamais présenté de sa vie comme son gendre.
Oh,
c'est pour ça que j'insiste sur la formule.
Juste pour qu'on comprenne un petit peu, quelle était la particularité de cet appartement ici à Paris?
C'était un appartement, et c'est toujours un appartement, sur les toits. Absolument extraordinaire, parce que on a l'impression que Paris est une mer de toit un peu grise, un peu, vous savez, comme sur l'Atlantique, comme ça. Et il se trouve que je suis landais, et j'ai vécu au bord de, au sommet des dunes, qui dominent la mer. Et j'ai toujours eu, chez Charlotte, dans son appartement, cette impression, comme ça, d'être juste au-dessus de la mer des toits. Et on voit 360 degrés sur tout Paris, et on est en plein centre de Paris.
Et si je peux rajouter juste un petit détail, parce que j'ai peut-être un œil un peu plus frais que le vôtre, en tant que gendre de Charlotte Perriand, en tant que gendre. Pour continuer la métaphore, c'est en effet un habitacle qui est construit comme une cabine de bateau. C'est-à-dire que tout est pensé au millimètre par elle, pour elle et pour son mari. Et la main et l'œil à sa mesure et partout. C'est extraordinaire.
Vous avez décrit les toits, mais l'intérieur de l'appartement?
Alors là aussi, c'est vrai que c'est très difficile en radio de faire percevoir des proportions de la lumière, surtout les rapports intérieurs-extérieurs. Et ça, c'est le propre de Charlotte Perriand. Elle avait un véritable génie des petites surfaces. Toutes petites surfaces. Avec
elle avait travaillé ça hein, pendant toute sa vie, notamment des...
Pendant,
avec le Corbusier, pour la Cité Radieuse.
Mais ouais. Exactement. Et depuis 1928, elle s'est spécialisée justement dans ces petites surfaces, car son projet, si vous voulez, politique, qu'elle a toujours porté, c'était de travailler et de concevoir pour le plus grand nombre. Or, le plus grand nombre ne peut pas se payer des appartements de 150 mètres carrés, 200 mètres carrés. Et donc, vous êtes dans ces toutes petites surfaces, et en même temps, vous avez l'impression que c'est immense.
Parce qu'elle a travaillé le vide.
Elle a travaillé le vide, elle a travaillé la lumière, elle a travaillé surtout ses rapports intérieurs-extérieurs.
Et si je peux rajouter juste un détail,
Virginie Moussa.
Toujours grâce à mon œil qui est beaucoup plus frais que le vôtre.
C'est la deuxième fois, je me disais. C'est le deuxième œil, elle n'en a plus après.
Je ne répondrai pas à la provocation.
Elle était donc en effet une spécialiste des lieux de petite surface. Je dirais plus qu'elle était aussi spécialiste des perchoirs. Elle est, en tant qu'alpiniste, je pense qu'elle aimait voir le monde en surplomb et que cette vision en surplomb, à la fois, la mettait, comme le disait Jacques Barsac, dans le dedans et le dehors en même temps. Et pour une femme qui aimait un peu les chats aussi, il y a quelque chose d'animal comme ça, d'aller se percher pour se protéger.
Et l'amour du ciel et de la lumière. Il y a, on oublie toujours, à Paris, il y a une qualité de lumière, notamment en septembre, octobre, novembre, qui est sublime.
Alors, c'est vrai, à côté de la Bretagne, l'océan, ça ne vaut rien. Venez tous habiter à Paris juste pour voir le ciel. Marion Vignal, vous, quel est votre premier contact avec cette œuvre, vous qui connaissez bien justement alors, l'histoire du design?
Charlotte Perriand, moi, mon grand regret, c'est que je ne l'ai jamais rencontrée.
Vous auriez pu?
J'aurais adoré. Quand elle est décédée, c'était en 99, j'étais étudiante en journalisme et je me rappelle très bien de la dépêche de l'AFP qui est tombée avec l'annonce de son décès. Et ça m'a rendue un peu triste parce qu'en fait, je connaissais son œuvre de mes études d'histoire de l'art et je savais que c'était une femme importante. Et je savais, je ne connaissais pas encore très très bien, mais je savais qu'elle avait apporté beaucoup, qu'elle avait travaillé avec Le Corbusier notamment, mais qu'elle avait aussi beaucoup œuvré seule, qu'elle avait fait notamment les arcs aussi dans les années 70, la Cité Radieuse, donc ces appartements incroyables qui sont toujours d'une grande efficacité. Et ça rappelle ce que disait Jacques tout à l'heure sur cette économie hein, de moyens. Cela, c'est vraiment parfait. Hein. C'est encore plus petit, je pense, que l'appartement parisien de Charlotte. Et c'est toujours un ravissement. Et aussi, d'ailleurs, je crois, pour les gens qui y vivent encore. Et donc voilà, j'étais d'abord émue de ne pas l'avoir rencontrée. C'était un peu la rencontre manquée quand j'étais étudiante en journalisme. Et ensuite, j'ai découvert plus son œuvre par les rééditions qui ont été faites par les éditeurs italiens, Cassina et d'autres.
Les rééditions de ses meubles.
Rééditions de ses meubles.
Donc, la chaise longue, par exemple.
Alors, la chaise
qui
longue,
qui est devenue
oui,
emblématique tout à de fait, sa création.
Tout à fait.
Une chaise longue très particulière.
Chaise longue, hein. Le tabouret à trois pieds, certaines bibliothèques aussi. Les marchands aussi parisiens. Surtout qui ont fait tout un travail assez considérable de recherche, de pièces, de collecte.
Un travail et leur fortune en même temps.
Et leur fortune, bien sûr, parce que c'est vrai que ce sont des pièces aujourd'hui qui valent vraiment très très cher.
Alors qu'elles étaient conçues industriellement pour le grand nombre.
Oui, pour la plupart. Des gens, c'était l'intention. Après, elle n'a pas toujours réussi à le faire. C'était son grand regret d'ailleurs. Elle disait que l'industrie n'était pas prête.
N'était pas prête, en effet, à travailler sur le mode de l'industrie automobile pour.
Elle a voulu le faire avec Jean Prouvé. Dont aussi des pièces sont aujourd'hui des œuvres muséales et des collectionneurs se les arrachent à prix d'or. Et Jean Prouvé a eu aussi une vie très difficile puisque quand il est décédé, il était vraiment, son entreprise ne marchait plus du tout. Il a vécu vraiment des moments de pauvreté, hein, presque. Et donc Charlotte Perriand a essayé tout ça, mais il n'y a pas toujours arrivé. Ensuite, je l'ai plus encore découverte quand j'ai écrit un livre sur les femmes designers, l'histoire des femmes dans le design au XXe siècle, où là j'ai vraiment mis à jour quelque chose que certains savaient, mais qui n'avait pas encore été beaucoup expliqué, qui était en fait, énormément de femmes de sa génération avaient travaillé pour des grands architectes, notamment, et dans leur ombre. Et souvent, ces architectes, dont Le Corbusier, avaient oublié de les citer.
Ce qui n'a pas été son cas.
Alors, si, ça a été son cas. Ça a été son cas, en fait, puisque elle s'est battue pour exiger d'avoir un droit de vraiment de citation et de copyright sur notamment sa chaise longue basculante qu'elle avait entièrement imaginée, alors sous le contrôle et l'autorité de Le Corbusier, et évidemment
qui avait donné des indications au départ.
Elle a beaucoup écrit sur le fait qu'elle a énormément appris de lui et qu'elle lui doit beaucoup, mais n'empêche qu'elle a imaginé énormément de choses et que c'était vraiment elle qui était la personne de l'atelier Le Corbusier en charge des équipements d'habitation, comme on disait. C'était pas vraiment des pensées comme des meubles.
Il y a eu un tour de passe-passe ensuite pour la signature de cette fameuse chaise longue que je vais laisser décrire à un dessinateur, peut-être qu'il va pouvoir nous décrire ce qu'était cette chaise longue Le Corbusier. Jeanneret et
avec Pierre Jeanneret,
ils l'ont fait, et Charlotte Tarian, parce qu'en fait c'est elle qui l'a véritablement travaillé,
c'est
mais ensuite Le Corbusier a donné les noms des gens qui avaient participé à l'élaboration par ordre alphabétique, donc l'histoire a retenu bien sûr Le Corbusier. Vous la décririez comment, cette chaise longue? Vous qui avez travaillé sur la période japonaise, on va revenir là-dessus, Charles Darbérian.
Merci de cette invitation à décrire un meuble
à la radio, qui est emblématique.
Bon, vous voyez un S, un S pas complètement courbé, vous le penchez un petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis vous vous allongez sur la face supérieure, et vous aurez peut-être l'impression d'être sur la chaise longue de Charlotte. C'est une chaise longue qui épouse parfaitement les articulations du corps humain,
sans accoudoir,
et qui est parfait pour se reposer, pour faire une petite sieste, voilà.
Et qui est basé sur un socle.
Alors les montants sont des tubes en acier à l'origine, parce qu'il y a une version japonaise qui est différente, et
en bambou, c'est ça.
En bambou, oui. Parce que l'acier était difficile à trouver au Japon et surtout en temps de guerre, et donc le support, en fait, là où on s'allonge, c'est en cuir, voilà.
Jacques Barzac, vous ajouteriez quelque chose sur le dispositif, c'est-à-dire c'est une chaise longue modulable, en fait.
C'est une chaise longue modulable et qui illustre que la modernité, en tout cas celle de Charlotte Perriand, c'est une affaire de corps. Et l'un des apports de Charlotte, ça a été bien ça, c'est tout à coup, que ce soit dans l'architecture d'intérieur ou l'architecture tout court, et dans le mobilier, il s'agit du corps dans l'espace. Comment il bouge, comment vous avez un siège qui s'intègre, qui prend en compte vos mouvements. Je cite toujours cet exemple des tables dites Mexique qu'elle a fait pour des chambres d'étudiants en 1953. Ce sont des tables triangulaires avec les angles arrondis. Alors on peut se dire, bah tiens, oui, c'est très joli, ces angles arrondis, c'est magnifique. En fait, c'est fait pour éviter tout simplement de se heurter le haut des jambes, n'est-ce pas, quand on est dans un tout petit espace, dans une chambre d'étudiant. Si vous faites une forme triangulaire pour qu'elle puisse s'intégrer à l'angle de ce petit espace, eh ben, si l'extrémité est pointue, eh ben, vous passez votre temps à vous cogner. Or, justement, elle arrondit pourquoi ? Pour adoucir ce rapport au corps, pour faire en sorte que vous ayez envie de le caresser. Si vous avez un angle aigu, vous n'avez pas envie de caresser cet objet. Pourquoi les tables de Charlotte, la plupart du temps, sont exactement plus ou moins épaisses en fonction, si elles sont massives, etc. Mais la plupart sont épaisses. Mais parce que c'est la distance entre le pouce et l'index. Et vous avez envie, et les crée pour cela, envie de caresser. Et en permanence, chez Charlotte, c'est le corps qui est là. Vous savez, et je termine là-dessus, quand elle concevait un espace, elle comptait les pas. D'abord, première chose, quand on est debout, alors elle dit, et sur ses dessins, vous retrouvez la hauteur de l'œil de la femme. L'œil de la femme, et elle le marquait 1m55. La hauteur de l'homme, de l'œil de l'homme, 1m75. Quand une femme tend le bras vers le haut, combien avez-vous de centimètres? Elle peut attendre à combien? Quand elle le baisse, etc. Quand elle est assise, quand elle est debout. Et c'est une fois que tout est repéré, combien vous faites de pas pour aller de tel et tel et tel endroit, quel mouvement vous faites, qu'elle commençait à créer.
J'aime être stone avec toi, j'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Il ferait des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de
mais rien de plus.
Tu m'as vu?
Tu m'as vu?
Tu m'as vu?
Nu. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine la jungle de saucisses. Tous les arbres sont en saucisses. Les singes, les toucans, les papillons sont en saucisses. Des hamsters de 130 kilos. Des animaux moitié saucisses, moitié plastique. Qui veulent te manger? Ma main tient dans ta main et qu'elle se sent bien.
Pourquoi, pourquoi, pourquoi?
Pourquoi ma main tient dans ta main et qu'elle se sent bien?
Pourquoi, pourquoi, pourquoi?
J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. J'aime être stone.
Il faut être stone aussi pour être à l'écoute du nouveau titre de Philippe Catherine. Nouvel album très attendu pour le 6 novembre. La programmation complètement allumée de Jean-Baptiste Audibert.
Rendez-vous.
J'allais en Savoie, car mon père était savoyard. Et on regardait l'horizon, et dans l'horizon, on voyait des belles montagnes neigeuses. Et pour moi, ces montagnes neigeuses, c'était la Chine. C'était au moins la Chine. La chose inaccessible. Et en même temps, ma convoitise, puisque c'était inaccessible. Et je me suis empressé d'y aller dès que j'ai eu mes 18 ans. Et ça a, on peut dire, marqué absolument toute mon existence.
Laurent Goumard, sur France Inter.
Un extrait du documentaire d'Arte, on entend Charlotte Perriand et on la voit parler de son rapport à la montagne. Ça tombe bien, on prend de la hauteur pour parler d'elle avec nos invités, Jacques Barsac, Charles Berberian, Virginie Mouza et Marion Vignal. On va parler justement de ses voyages parce qu'elle va essayer de retrouver la montagne dans la Chine, elle va essayer de retrouver la Chine au Japon, etc., etc. On va parler de ça avec vous aussi, Charles Berberian. Mais d'abord, qu'est-ce que ces racines savoyardes ont à voir plus tard avec son travail, Marion Vignal?
Ben moi, je pense que c'est fondamental parce que c'est vraiment là, dans ses racines savoyardes, qu'elle a son essentialisme, quelque part, son humanisme aussi, puisqu'elle parle souvent du monde paysan aussi, qu'elle respecte beaucoup et qui est pour elle une sorte de base aussi. Il ne faut pas oublier qu'elle a aussi été longtemps communiste. Et donc, elle a des grandes valeurs comme ça, de s'attacher au peuple dans son entier. Et certains de ses meubles sont très, très, je trouve, symboliques de ça, de une forme de rusticité, mais en même
paille,
temps...
Paille, bois...
Voilà, tous les matériaux naturels qu'elle utilise énormément. Et puis des formes très simples, quelque chose vraiment d'essentiel. C'est vraiment, elle parle de formes utiles. Donc c'est l'inverse des formes futiles. Et c'est pour ça que ça y a une pérennité vraiment évidente de toutes ses œuvres. Et puis, ce qui est très beau, c'est qu'elle a couplé ça avec l'expérience du Japon, donc le minimalisme japonais. Et on a vraiment cette rusticité un peu paysanne, associée à cette épure nippone. Et on a une œuvre de Charlotte Perriand qui est une synthèse de ça. Et c'est très fort parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de mariages Orient-Occident. En plus, elle est pétrie de cette modernité quand même de l'architecture du Corbusier, de cette envie de vraiment construire aussi avec des moyens modernes. Donc je pense que ces meubles, pour moi... concentre énormément de cette âme-là aussi.
Oui, on parle du Japon, Charles Berberian, parce que Charlotte Perriand est nommée conseillère pour l'art industriel par le gouvernement japonais en 1940. Donc elle part à Tokyo, elle rentrera en France que en 1946. Pourquoi elle part, elle, au Japon? Pourquoi le Japon vient la chercher, en fait? Qu'est-ce qu'il recherche en elle?
Elle a eu comme collaborateur à l'atelier Le Corbusier, Junko Sakakura, qui a certainement dû déceler chez elle quelque chose qui l'a fait penser qu'elle serait la meilleure personne pour venir coacher les designers, les créateurs japonais à cette période précise, c'est-à-dire une période où le Japon s'est ouvert au reste du monde, cherchent à vendre des objets conçus chez eux au reste du monde. Et cette modernité, ce modernisme annoncé par toute cette avant-garde en Europe, et dont Charlotte est l'une des actrices les plus importantes, fait que, bon, c'était la meilleure personne. Moi, ce que je perçois aussi, c'est que, et sans doute, dans la personnalité de Charlotte, Junko Sakakura avait ressenti ça. Il n'y a pas de condescendance chez Charlotte. Elle n'arrive pas avec une affirmation. Voilà comment on fait. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle ne veut pas, mais qui n'a pas une préconception de ce qu'elle cherche. Elle est à l'écoute, elle est curieuse. Donc quand elle découvre le Japon, parce qu'elle le découvre complètement, elle ne sait rien du Japon à part le livre de Okakura Kasuko, le livre du thé. Elle découvre qu'il y a une adéquation entre ses recherches, son amour de l'art vernaculaire, donc savoyard, et cette tradition japonaise qui privilégie d'abord la fonctionnalité d'un objet avant de privilégier son esthétisme, ce qui ne l'empêche pas d'arriver à un résultat esthétique de toute façon. Donc c'est une sorte de coup de foudre. Elle arrive, elle a presque 40 ans, elle a 37 ans, et c'est l'aboutissement de ses recherches et un nouveau départ, parce qu'effectivement, à cette époque-là, il n'y a pas de jonction encore Asie-Occident, qu'elle va créer, en fait. Parce qu'elle va ouvrir l'horizon des créateurs sur place et son propre horizon en mélangeant la culture japonaise avec la culture occidentale.
Virginie Mouza.
Il y a un amour chez les deux peuples français et japonais, chez Charlotte et ses interlocuteurs, de la création silencieuse. Il y a une force qui ne se dit pas dans toute cette création. Les objets du quotidien, les objets vernaculaires, paysans, il y a une humilité triomphante que Charlotte pratique, qu'elle reconnaît, et qui est une sorte de religion, en effet, qu'elle va rencontrer aussi au Japon, et dans laquelle elle est née. Plus, elle, savoyarde, et ses Japonais, qui sont des peuples du bois. Ces gens construisent leur habitat depuis toujours en bois. Elle vit, a vécu dans des chalets. On est dans les mêmes éléments, on les travaille avec le même amour, avec le même respect.
Alors que pendant la période Le Corbusier, elle a travaillé véritablement sur l'acier, sur le tube, sur la carrosserie. Donc il y a quand même quelque chose qui va se mettre en place. Elle va retrouver au Japon ce qu'elle avait déjà vu dans son enfance. Alors à propos du Japon, il y a dans le documentaire qui va passer sur Arte, un documentaire signé Stéphane Guez, quelque chose de très intéressant sur la façon qu'elle a eu de concevoir la chaise ombre.
Je voulais pouvoir les rentrer, comme ça se fait au Japon, dans les grands corps de rangement. Quand on n'en a plus besoin, on ne laisse pas encombrer l'espace, bien sûr, le vide, toujours le vide. En plus, autour d'une table, je n'avais pas envie de voir que sa chaise, ça me gênait également. Le vide, toujours, je l'ai peur au noir. On sait bien que si c'est en noir, c'est fini, ça disparaît, vous cognez dessus, vous ne les voyez même pas. Mais l'idée m'était venue, drôle de détour, du Bunraku, qui est le théâtre des marionnettes. Eh bien, ceux qui aident à la manipulation sont habillés de noir. Ce sont des ombres. Autrement dit, on les a gommés. Eh bien, j'en ai fait autant avec mon siège.
Jacques Barsac.
C'est très émouvant de l'entendre, d'autant que c'était un an avant sa mort. C'est très beau.
Quelle belle mère elle était. Ah, ça vous a surpris. Je pense qu'on ne doit pas vous poser souvent la question, Jacques Barsac.
Écoutez, un jour, je discutais avec un héritier d'un artiste très, 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 très fameux. Ouais. Et à la fin, comme ça, devant l'ascenseur, il me dit oh, c'est quand même emmerdant parce qu'on ne peut pas dire du mal de ses parents et dire comment ils étaient. Alors, Charlotte n'était pas. Dit ma mère, évidemment. Non, elle était obsédée par la création. Et jusqu'à la fin, sur son lit de mort, elle était en train de corriger un prototype. Il n'y a que la création qui l'intéressait et se ressourcer pour créer. Alors, comme elle était un peu naturellement le centre du monde, c'est vrai que c'était sa création d'abord. Et puis venait ensuite Pernette, le reste, si je puis dire.
Et vous faisiez partie du reste, on aura bien compris.
Absolument.
Par rapport à la montagne, c'était aussi une alpiniste, une sportive aguerrie. Qu'est-ce que ça impliquait aussi, et ça a fourni, peut-être ça a nourri sa façon même de travailler et d'être au monde, ce rapport au sport de montagne, Virginie Mouzin?
Selon moi, la sensualité dont on parlait plus tôt dans l'émission, elle est entièrement, en tout cas beaucoup, issue de ce rapport à la nature. Très souvent, elle expose son corps à la nature, elle offre son corps au soleil. Il y a des fameuses photos qu'on connaît, notamment celle où elle est au sommet de la montagne, torse nu, bras tendus. Sur mon livre, Pernette Perriand a eu l'extrême générosité de m'offrir une photo inédite qui est Charlotte qui fait du kayak au Baléares dans les années 30, où elle kayak torse nu au soleil. Elle est en symbiose avec le biotope. Et je pense que de là vient une énorme sensualité des gestes, des choses, des matériaux, de la nature.
Jacques Barsac.
Et une, c'est là où l'alpinisme, vous l'avez dit, était extrêmement important. Et notamment, elle a commencé à le pratiquer dès l'âge de 18 ans. Et ça lui a donné le sens de l'égalité homme-femme. Car lorsque vous êtes encordé, que vous soyez un homme ou une femme, quel que soit le temps, il faut arriver en haut, et si possible au col. Et il faut arriver tous entiers. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tient compte de celui qui est le plus faible. Et c'est pas toujours une femme dans une cordée qui est la plus faible, c'est parfois des hommes. En tout cas, l'égalité est quand même la clé de l'alpinisme. Quand on se retrouve à dormir dans des refuges tout petits, à part que vous soyez homme ou femme, vous dormez côte à côte dans 5 mètres carrés ou 6 mètres carrés, nous exposons à la Fondation le refuge de Tonneau qu'elle avait conçu, par exemple, avec Pierre Jeanneret. Vous verrez un peu ce que ça signifie, l'alpinisme à cette époque-là.
C'est très étrange, parce que d'ailleurs, ce refuge Tonneau, au départ, c'était inspiré d'un manège d'enfant.
D'un manège d'enfant.
Mais j'arrive pas à comprendre le lien, en fait. Alors, on imagine le manège, ça on a compris, oui.
Alors, d'abord, venez voir l'exposition.
Oui, mais elle est encore ouverte. Ouais.
Et alors, en fait, c'est une question de structure. Le manège d'enfant, c'est un parapluie. Donc vous avez le manche du parapluie, vous avez les baleines qui sont à la périphérie, et vous mettez vos enfants à la périphérie de ces baleines qui retombent suspendues, n'est-ce pas, au bout des baleines.
D'accord.
Eh bien, il suffit que vous remplaciez les suspentes et les enfants par des murs, en quelque sorte, très 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 légers, eh bien vous avez quelque chose qui résiste très très bien. Et ça fait une sorte de capsule spatiale. Et concernant ce projet de 1938 qu'elle a eu avec Pierre Jeanneret, mon grand regret, c'est que Hergé ne l'ait jamais découvert, parce que je suis sûr qu'il aurait utilisé dans Tintin, pardon Charles, de parler de votre ancêtre Hergé, mais je suis certain de votre maître.
Moi j'ai un épisode que j'aime vraiment beaucoup à la montagne au Japon, le Mont Zao, où elle a tenu à s'y rendre pour skier, avec ses étudiants dont fait partie Soriya Nagi. Et à un moment, elle dit « je veux grimper jusqu'au sommet », alors ils sont pas équipés pour. Et elle veut y aller, et elle entraîne tout le monde avec elle. Et Soriya Nagi et les autres étudiants sont très dubitatifs, genre « on va jamais y arriver ». Et en fait, ils y arrivent, et elle la première. Et cet entêtement à avoir d'abord confiance dans ses envies et entraîner tout le monde dans cette aventure pour découvrir un site absolument merveilleux, je trouve que ce truc-là, c'est sa grande force, c'est cette détermination qui... Enfin, moi, je l'admire pour ça aussi.
Virginie Mouzin ?
Et pour aller dans votre sens et dans le sens de la cordée dont on parlait tout à l'heure... l'alpinisme, la cordée, chez elle, c'est vraiment le travail d'équipe. On est soudés, d'où son indignation à juste titre sur les signatures, sur ses œuvres, parce que c'est un travail d'équipe. Elle refusait toujours de se mettre en avant. Elle était leader, oui, mais c'est le groupe contre l'individu pour elle, toujours. Et donc, l'alpinisme, la cordée, on est un ensemble, on ne se désolidarise pas.
Et ben on va parler dans quelques instants justement de celui qui faisait partie de l'équipe et qui a tenté de la gommer pendant un bon laps de temps, Le Corbusier. Yeah.
my girl to church with some drug money. Talk, pay my tithes, thank you, damn.
Do you want take me to my favorite show? Did you hold my hand and pull me close next to me, kiss my cheek, cause sunny days. Day three, take me to a deep river, steal a kiss when I'm lost in the mist. Will you still be there for me once I'm yours to obtain? Once my fruits are for taking and you flow through my veins, do you still think I'm beautiful when my tears fall like rain? My love is so beautiful. Not get bound by his poisonous chains. For a man who can follow his heart and stand up in my holy terrain. I am blue when the moon hits my skin right, hot pink when you open up my sweet thighs. Pull you in and your life can begin, cause it's early days. Still be there for me. Now I'm yours to obtain. Now my fruits are for taking and your fingers are stained. Do you still think I'm beautiful when you light me in flames? My love is so beautiful.
FK et Twigs en duo avec le rappeur américain Future.
La cuisine, c'est le domaine de la femme. Et ce domaine, elle y passera sa journée en ouvrant les yeux et elle se précipitera au petit déjeuner. Après, c'est la préparation du déjeuner, c'est la vaisselle, c'est la préparation du goûter, c'est la préparation du dîner, c'est la vaisselle. Enfin, c'est toute sa journée, c'est une petite prison.
Le nouveau rendez-vous.
Actuellement, la femme travaille et la transformation de la cuisine devient une question d'évolution sociale, d'évolution de la condition de la femme, au fond, qu'on essaie de libérer, qui veut se libérer.
Laurent Goumard.
Une prise de parole de Charlotte Perriand qui avait une vision politique engagée dès la fin des années 20, qui passait notamment par imaginer pour le plus grand nombre, et les femmes en particulier, des objets simples et des espaces qui leur permettent de s'évader de leur rôle de femme au foyer. Le plus étonnant quand même, c'est l'environnement qui va la rendre très célèbre en 1927, son bar sur le toit qu'elle donne pour le salon d'automne à Paris. Quand tout le monde propose des salons, des chambres à coucher, elle propose un bar sur le toit.
Sous le toit.
Assez étonnant quand même, Marion Vignal, pour une femme à l'époque.
Oui, oui, c'est vrai. Bah, c'est l'idée un peu des perchoirs qu'on retrouve plus tard dans sa vie. Elle rêve toujours d'être un peu perchée et de dominer quelque part le monde. Alors pas dominer dans un sens de pouvoir, mais plutôt pour le mieux le contempler, l'observer et mieux le comprendre aussi. Et puis dans son bar sous le toit, bah, elle fait quelque chose d'assez simple dans mon souvenir, mais qui marque quand même les esprits.
Et qui va marquer Le Corbusier.
Et parce que oui, ça va lui valoir quand même de pouvoir se présenter en tout cas à l'atelier de Le Corbusier avec ses dessins. Il va l'envoyer balader gentiment.
En lui disant une phrase catastrophique du style, ici on ne dessine pas de coussins,
on ne brode pas de coussins. Et elle est assez offusquée et puis finalement il va quand même la rappeler, ou en tout cas ils vont se revoir. Mais ça va, voilà, son rêve, parce que ça, c'était quand même un rêve pour elle. Elle avait vraiment ce désir de travailler pour lui à son service. Elle avait lu son livre qui l'avait beaucoup marqué et intéressé. Et elle était vraiment très en phase avec ses théories. Hein.
En quoi ça va fasciner Le Corbusier justement, ce bar sous le toit ?
La réduction à l'essentiel. Je pense que on est dans une époque où le 19e siècle se traîne, le 20e le bouscule, et elle a les deux pieds, dans le 20e.
Dans le 20e
siècle. Donc elle réduit à l'essentiel une proposition d'un acte social, puisqu'un bar, c'est une réunion sociale, qu'elle réduit presque à son utilité. Et en plus, c'est beau.
Une table rétractable avec un roulement à billes, c'est ça ?
Exactement.
Jacques Darsac.
Et lorsque Le Corbusier découvre le bar sous le toit, il se rend compte surtout que Charlotte est capable de réaliser. Car il avait rencontré, un mois avant ou trois semaines avant, il avait vu de superbes dessins très intéressants et tout. Sauf que là, il voit quelqu'un, une jeune femme de 23 ans, qui a des artisans et qui est capable de réaliser. Car il faut bien se remettre dans l'époque. En 1927, le mobilier était essentiellement en bois. Les premiers meubles en tube apparaissent vers 1926-25, deux ans avant. Et Corbu voit cette jeune femme avec plein d'idées et qui a ses artisans. Donc c'est là où il lui se rend compte qu'ayant besoin pour ses réalisations, pour ses villas de meubles, il l'a choisi et il accepte justement, il lui propose de s'associer pour le mobilier.
Parce que justement pour le mobilier, parce que lui, il créait des espaces, il créait à l'époque des villas, mais il n'avait pas du tout le travail de pouvoir créer à l'intérieur les chaises, et c'est elle qui va être en charge de ça, avant d'être en charge aussi de l'architecture.
Si on voit des photos de Le Corbusier dans son atelier, c'est un bordel pas possible. C'est-à-dire qu'il se sert de chaises pour poser dessus une planche qui lui sert de table de travail. Et moi, je me sens plus proche de ce point de vue-là de Le Corbusier que de Charlotte. Si Charlotte Perriand vient chez moi aujourd'hui, elle sera horrifiée, quoi, parce que... Et je pense que Le Corbusier, ne cuisinant pas, ne s'est pas organisé à l'intérieur, en fait. Il est dans la pure théorie, et quand il tombe sur Charlotte, il tombe sur quelqu'un qui a le sens pratique avant toute chose, quoi.
D'ailleurs, il ne connaît absolument pas le mobilier. Quand j'ai lu votre journal imaginaire, il y a un détail. Alors, je me suis demandé si c'était une fiction que vous aviez écrite, Virginie Mouzin, ou quelque chose de réel. Il lui demande ce qu'elle va construire le mobilier de l'appartement de Le Corbusier. Le Corbusier va lui demander, ce mobilier-là. Et il veut un lit, mais qui est hyper haut, c'est ça, à hauteur de... Mais c'est vrai ou pas, ce truc?
Oui.
Alors, c'est vrai. C'est vrai.
Qui n'a aucun sens, enfin.
Alors peut-être que ça a un
oui,
sens.
Oui, aussi, des trucs érotiques, mais je vois pas.
Voilà.
D'accord.
Voilà.
Le Corbusier était érotiquement.
Érotiquement. Alors, il était très au point, visiblement, sur ce lit, et là, il savait exactement ce qu'il voulait faire, un peu comme une chaise avec une planche, là, et tout ça. Donc, ok. Il voulait ça à une certaine hauteur, etc. Pour le reste, je pense qu'on peut dire qu'il y avait une sorte de vide d'intériorité chez Le Corbusier, et que Charlotte Perriand n'était pas du tout une femme d'intérieur.
Pas du tout.
Pas du tout. Mais elle avait, comme le disait Jacques Barsac tout à l'heure, le sens de l'espace et des humains. Et le sens de l'espace plus celui des humains, et ben ça fait quelqu'un qui sait appréhender l'intérieur.
Alors à quel moment la rupture s'est faite et à quelle occasion ? Pour des raisons politiques quand même, parce qu'elle est proche du Parti communiste. Oui. Lui, il avait quand même certaines amitiés avec des gens, on va dire, d'extrême droite à l'époque. Mais c'est pas véritablement pour cette raison-là.
La politique a joué un rôle important dans leur séparation. En même temps, ça faisait 10 ans qu'elle collaborait, qu'elle était proche. Donc il fallait qu'elle parte aussi. Alors, Corbu, il est allé, comme on dit, draguer Staline à Moscou, puisqu'il a construit le centre Soyouz. Il est allé draguer... Mussolini aussi, il est allé draguer Léon Blum. N'oublions pas, c'est qu'il a fait, il a participé au concours du monument à Vaillant Couturier, l'homme de gauche par essence, quoi. Il a Corbu a fait la cour à beaucoup d'hommes de politique, car quand il s'agit et quand on a pour projet de construire des villes et des villes nouvelles pour l'homme nouveau, effectivement son interlocuteur c'est le politique. Donc, il est allé voir, il a courtisé. Alors, c'est vrai que je dis toujours, et je le dis à partir des archives, Charlotte avait dit à Pernette, un jour, tu comprendras, tout est dans la cave. Et effectivement, lorsque j'ai terminé mon premier livre, il y a déjà presque 15 ans, sur Charlotte, tout était fini, le manuscrit était fini, et Pernette sort de la cave une malle, en métal, comme ça, on l'ouvre, et qu'est-ce que je vois, les publications, justement, un peu d'extrême droite des années 30. Et je dois dire que j'ai tout de suite appelé l'éditeur en disant attends, on arrête là, il faut que je travaille sur tout ça. Corbu était autoritariste, mais je dirais qu'il n'était pas le seul. Attendez, la dictature du prolétariat, que n'a jamais défendu Charlotte. Enfin bon, la dictature du prolétariat, je crois que c'était un des arguments du Parti communiste. Je répète, même si Charlotte n'a jamais, je n'ai jamais rien trouvé comme quoi elle était stalinienne et pour cela. Donc, il était dans deux bords opposés. Mais Charlotte ne désespérait pas que le ramener dans le giron des sympathisants communistes. Et ce n'est pas l'objet de notre émission ce soir. C'est un sujet qui est extrêmement passionnant. Et Charlotte était à l'image de beaucoup, beaucoup de grands créateurs engagés, très proches des communistes. Quand elle adhère en 1932 à l'Association des artistes et écrivains révolutionnaires, mais vous avez tous les grands photographes de l'époque, vous avez tous les grands artistes, les intellectuels, etc. Bon, Corbu, il a adhéré de l'autre côté, quoi, voilà.
Et à la fois, il est extrêmement dur avec elle, dans des lettres, il a un discours... Vous le dessinez en corbeau, Charles Berberian, dans votre roman graphique.
Quand je le dessine, lui, je lui donne presque une tête de mort. Hein. Et le corbeau, mais un animal plutôt sympathique. Moi, j'aime beaucoup les corbeaux. Mais je voulais montrer cette ambiguïté, parce qu'elle elle ne l'aime pas, mais elle l'aime en même temps. Et d'ailleurs, il y a une relation ambiguë entre... Oui.
Elle a toujours été très fière de travailler avec lui. Oui.
Bah, il y a une fascination commune. C'est-à-dire que moi, je soupçonne le Corbusier d'être fasciné par Charlotte et de lui en vouloir de le fasciner autant. Il ne peut pas accepter de ne pas être la star dans une pièce. Il ne peut pas y avoir quelqu'un d'aussi intéressant que lui ou d'aussi talentueux que lui. Et Charlotte a cette ascendance sur lui, quoi. C'est qu'elle
je pense aussi que Le Corbusier, en fait, ne comprend pas vraiment Charlotte Perriand, sa personnalité. C'est quand même une femme qui est complètement à l'encontre des codes de cette société. Elle est presque plus moderne que lui, finalement, dans sa vie, dans son mode de vie, dans sa pensée. Elle va quand même très très loin.
Elle est très intègre. Elle était coiffée à la garçonne. Comme collier, ça je m'adresse à la journaliste de mode, elle avait un collier fait avec des roulements à billes.
Oui, et puis c'est quelqu'un qui n'avait peur de rien. On l'a vu avec tout ce qu'elle faisait dans l'alpinisme et autres. Une voyageuse aussi, puisqu'elle a traversé quand même le monde pour aller jusqu'au Japon. Elle a vécu des vraies expériences. C'était vraiment quelqu'un qui était à l'épreuve du réel. Et je pense que Le Corbusier était, c'est vrai, un grand théoricien, un bâtisseur aussi, mais il n'a pas autant bâti qu'il l'aurait souhaité. Et finalement, elle, le fait de se confronter autant au monde, autant cet ancrage dans le réel qu'elle avait si fortement, plus cette féminité aussi, dont elle était très fière et qu'elle assumait totalement, je pense que ça a dû beaucoup le déstabiliser.
Ah bah, elle est très déstabilisée dans votre journal imaginaire. À un moment donné, elle va divorcer de son premier mari, il lui demande comment se passe son divorce, elle dit mais très bien, et il est un peu déstabilisé, il lui dit mais je comprendrais si vous aimiez les femmes, il ne comprend pas du tout
qu'elle peut être personnage. Je pense qu'il passe complètement
si on divorce, c'est que forcément on est lesbienne. Mais
je pense que cette remarque en dit long sur la liberté qu'il prête à Charlotte et qu'il envie, probablement. Et si on rajoute sur la tartine une petite couche de misogynisme, je pense qu'on a le portrait.
Mais il y a un épisode que j'aime beaucoup, que vous développez dans votre livre et qui est pas vraiment présent dans l'autobiographie qu'a écrit Charlotte. C'est les dîners après le travail. Donc ils vont au Domingo, c'est ça, et puis ils dînent. Il y a Le Corbusier avec sa femme, son épouse. Ouais. Parfois il y a Fernand Léger. Ouais. Et puis elle vient seule, c'est-à-dire que Percy ne l'accompagne pas. Elle est indépendante alors qu'elle est déjà mariée. Et ce qu'elle explique, à la fois dans son livre, mais que vous expliquez vraiment bien dans votre livre, c'est que le contrat entre Percy et elle, c'est une indépendance mutuelle. C'est-à-dire que chacun vit sa vie. On est quand même en... elle l'épouse en quelle année, je crois, en
1926.
En 1926... Une jeune femme qui travaille déjà, enfin qui veut gagner sa vie, dit à l'homme qui va l'épouser, on fait chacun ce qu'on veut de notre côté, quoi. Enfin,
c'est, ouais. c'est le même contrat qu'elle a ensuite avec Pierre Jeanneret. Donc, oui. Le cousin de Corbusier avec qui elle travaille. Et donc, ils travaillent ensemble. Le soir, ils se retrouvent. Mais c'est bien clair entre eux que c'est, voilà, ils sont chacun deux individus. À un moment donné, ils se retrouvent dans sur ce chemin-là. Mais ils savent que c'est pas non plus une fusion absolue.
Et ce contrat va se poursuivre avec son mari, Jacques Martin.
Jacques Martin, pas celui qu'on connaît, hein. Un autre.
Pas l'auteur de BD non plus.
Pas l'auteur de BD non plus.
Et si on se réfère en fait à la personnalité de la mère de Charlotte Perriand, c'est de là que vient cette indépendance farouche, son désir de bâtir sa vie de femme comme un homme, peut-être.
À quel moment? Parce qu'on a toujours l'impression qu'on redécouvre Charlotte Perriand. Là, une nouvelle exposition, et encore on redécouvre Charlotte Perriand. Mais à partir de quand même, son nom est apparu au même niveau que Le Corbusier, Jacques Barsac? Ça date de quand? Parce que on a l'impression que le travail doit être chaque fois mené.
Au même niveau que Le Corbusier dans le domaine des meubles, c'est quasiment après la mort de Charlotte Perriand. Et en ce sens, nous avons, avec Pernette, fait remettre les trois signatures sur les meubles en 2001-2002, deux ans après la mort de Charlotte. Alors, c'est vrai que le paradoxe, c'est que Charlotte, finalement, a toujours été connue. À la fin des années 20, elle était très connue.
Elle avait à la fin des années 20, elle était même devenue une star dans son domaine-là. Et ça lui faisait peur, justement. Et c'est pour ça qu'elle a cherché à aller dans l'atelier de Le Corbusier.
Oui, quand elle part au Japon pour conseiller, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle a 37 ans, et elle part pour conseiller un pays à l'échelle d'un pays. L'échelle d'un pays, du Japon. Alors le Japon est neutre à l'époque, on est avant Pearl Harbor, un an et demi avant Pearl Harbor. Et cette femme est invitée dans un pays extrêmement machiste, et elle va orienter la production. Alors je fais, et Charles, je me permets de dire, Charles, j'adore votre travail, et la bande dessinée sur Charlotte et le Japon que vous avez faite est absolument magnifique. Donc elle arrive dans ce pays complètement macho, et la manière dont elle est respectée par tout le monde, c'est son assistante, Sori Yanagi, qui la trouve. Quand elle débarque dans une entreprise, une école, une université ou la campagne, il est toujours devant. Et il va dire à ses futurs interlocuteurs qui vont la rencontrer dans 30 secondes, une minute, « Vous savez, elle est payée aussi cher que le Premier ministre. » Alors là, tous les Japonais s'inclinent, bien sûr, puisque c'est une femme. Il n'y a aucun étranger au Japon à l'époque, mais une femme payée autant que le Premier ministre, alors là, respect.
Ah mais ça sera le mot de la fin. Merci, merci à vous quatre. On va partir en live du côté du rock anglais avec Temples. On va retrouver Marion Guilbeault pour le live. All right, let's have a
little rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Mais Marion, il me semble les avoir déjà vus hier. Est-ce que leurs cheveux ont poussé dans la nuit?
Non, leurs cheveux n'ont pas poussé, mais ils sont pas très contents parce que vous leur avez piqué leur polo, je crois.
C'est vrai?
Ouais, vous avez un polo assez glam. Ouais. Aujourd'hui.
Glitter,
c'est ça. Alors c'était tellement bien hier soir qu'on a décidé de les garder encore un petit peu, Temples en live avec nous au 621. Temples qui sortira son troisième album Hot Motion, ce sera vendredi. Et c'est un disque qui confirme toujours leur flamboyance, leur talent de mélodiste, un disque qui confirme aussi leur génie à capter l'esprit de cette époque enfumée, révolue. Bah, parce que naturellement, les musiciens de Temples n'étaient pas nés dans les 60s, mais on a dû mettre quelques gouttes de Revolver et des photos de Mark Bolan dans leur biberon, ça c'est sûr. Hot Motion a été enregistré dans la maison de James, le chanteur-guitariste, toujours basé dans les Midlands. Et au sujet de ce nouvel album, il déclare avoir voulu revenir à quelque chose de plus primaire, d'un peu plus sombre aussi, et de redonner la priorité aux guitares. La guitare qui, comme chacun le sait, est la meilleure amie de l'homme anglais entre 7 ans et 77 ans. Alors, Temples nous fait un super cadeau. Ce soir, c'est un titre en avant-première de cet album. Ce sera leur prochain single. Ils ne l'ont joué nulle part ailleurs. C'est pour le NRV.
C'est une exclue NRV.
Ça s'appelle Holy Horses. C'est à vous, messieurs. We'll be right back.
Merci.
Merveilleux Temples, Holly Ortiz. Merci beaucoup, messieurs. C'est extrait de Hot Motion, leur nouvel album qui sort vendredi. Temples, c'était James, Thomas, Adam et Rance. Merci encore. Ils seront en concert au Trabendo à Paris. Ce sera le 20 novembre. Et la prise de son ce soir était assurée par Juliette Delperroux et Clément Vuillet. Merci beaucoup.
Qui ont fait des miracles, vu l'installation.
Mais oui. Ouais.
Merci beaucoup. Merci à nos invités. Marion Vignal, je rappelle que, non, je signale que le 10 octobre, vous serez au Silencio à Paris avec Virginie Mouza ici présente. Et puis que vous êtes aussi commissaire d'une exposition du 15 au 20 octobre à la galerie Gabriel et Guillaume. Jacques Barsac, l'exposition Le Monde Nouveau de Charlotte Perriand, c'est à la Fondation Louis Vuitton à partir du 2 octobre. Le catalogue formidable est aux éditions Gallimard. Virginie Mouza et Devant moi la liberté, journal imaginaire de Charlotte Perriand, est paru chez Flammarion. Charles Berberian, Charlotte Perriand, une architecte française au Japon, c'est aux éditions Chêne Arte Éditions. Et je signale aussi le livre de Laura Adler, bien sûr notre collègue ici à France Inter, Charlotte Perriand chez Gallimard. Voilà, ça c'était le NRV première partie. On se retrouve dans 15 minutes pour le NRV. La suite, ce sera plus de France Inter. Mais au programme de demain, que va-t-on trouver ?
Il y a donc bien une source politique, une méthode politique et à la fin un procès politique.
Mélenchon et les autres politiques en procès, politique à la barre, les magistrats en procès, ce sera le thème de demain. Je vous invite à poser dès à présent vos questions, vos interrogations ou même vos analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. En live demain, la pop futuriste du groupe Pion. Ouais. Des années lycées, hein, Benoît Lagnane.
Oui,
le nouveau rendez-vous, vous le savez, c'est deux fois plus de chances de nous écouter dès 18h sur franceinter.fr et en podcast, ou alors 22h minuit à la radio, comme tout le monde. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation. La programmation, préparation est signée Virginie Rouzic et Clémence Diligent. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal, en compagnie de Freud et des femmes qui ont beaucoup compté dans sa vie, même s'il ne les a pas vraiment comprises. C'est au programme du NRV, la suite, France Inter+. À tout de suite.
Rendez-vous.